J'avais l'intention de commencer en lisant une page d'un ami éthologue, et c'est une page que je trouve très bonne pour une introduction. Alors je vais le lire. Alors là, il n'y aurait pas eu de PowerPoint. Si vous permettez, je m'assois. Alors, cet ami a écrit la chose suivante. C'était pas, il n'a pas écrit pour moi, mais ça m'est tombé sous les yeux. Chacun a fait peu ou prou de l'éthologie. Donc, chacun, ça veut dire vous. En observant une fourmilière, un groupe de pigeons picorant des miettes, les salutations de deux chiens qui se rencontrent, les soins maternels prodigués par une chatte à ses petits nouveau-nés. Vous avez tous vu ça. La télévision offre par ailleurs de nombreux documents magnifiques sur la vie d'espèces plus exotiques. Et certains films ont aussi récemment permis à tout un chacun de pénétrer dans les cycles vitaux complexes d'espèces telles que les oies et les manchots. Vous connaissez ça, ce sont des animaux familiers pour vous. Il est ainsi facile de constater que les animaux communiquent entre eux, ont des territoires, des stratégies pour assurer leur nourriture, se reproduire, se reconnaître. Chaque espèce a ses propres coutumes. Les façons de se reproduire donnent lieu, par exemple, à des cérémoniaux de cours aussi variés que spécifiques. L'animal humain, qui aujourd'hui se nomme lui-même modestement Homo sapiens, n'échappe pas à la règle et lorsque se pose la question classique « Qu'est-ce qui distingue l'homme des autres animaux ?» Bon, je pose la question. Eh bien, les réponses, ne répondez pas, les réponses sont variées et nombreuses, mais à la réflexion souvent peu convaincante. N'y a-t-il pas plus de différence entre une fourmi et un crocodile qu'entre un homme et ce même crocodile? La question est ainsi mal posée, et il serait plus instructif de l'inverser. Qu'y a-t-il de commun entre l'homme et telle ou telle espèce? Ou plus précisément, peut-on imaginer qu'un animal serait capable de réaliser ce que cet homme est en train de faire? Sûrement pas ce que je suis en train de faire, mais enfin. La réponse est évidente. Beaucoup d'activités vitales ne sont pas le propre de l'homme. C'est d'ailleurs ce qui permet à l'homme de comprendre par projection empathique l'activité animale qu'il observe et de lui attribuer une intentionnalité. Et c'est pour cette raison que l'homme se sent plus proche du crocodile que de la fourmi. C'est vrai pour tous, là. Peut-être qu'ils préfèrent la fourmi. Bien sûr, plus les animaux nous sont familiers, plus les inférences sont faciles. Cette familiarité est basée sur la similitude, similitude morphologique, similitude comportementale. Nous comprenons mieux les mammifères que les reptiles et les reptiles que les insectes. La compréhension mutuelle du chien et de son maître paraît aller de soi. Il ne lui manque que la parole, dit-on. Mais en fait, qu'est-ce que la parole apporterait de plus à cette interaction, qui d'ailleurs n'en est pas dépourvue du côté du partenaire humain, qui parle fréquemment à son chien, et ce dernier semble y porter intérêt. Pour répondre à cette question, examinons parmi toutes les fonctions que parler nous permet d'accomplir, définies par le linguiste contemporain que vous connaissez, Roman Jakobson, quelles sont donc celles dont notre ami le chien est incapable? À l'évidence, il est capable d'exprimer ses sentiments et ses besoins, c'est la fonction expressive, de saluer un nouveau venu, c'est la fonction fatigue, d'agir sur le comportement de son vis-à-vis, c'est la fonction conative, d'avoir des échanges ludiques, et même s'il est bien éduqué, d'accomplir à la demande de son maître des performances sophistiquées. En somme, il n'est pas entièrement juste de dire qu'il ne lui manque que la parole, dans la mesure où il est parfaitement capable de réaliser la plupart des fonctions de nos paroles quotidiennes, sans cependant parler. De ces constatations, sans doute très banales, et je vois que vos paupières commencent d'ailleurs à s'abaisser, trois questions émergent. Premièrement, le langage est utilisé pour assurer des fonctions non proprement langagières, puisqu'elles peuvent être réalisées à l'évidence par des animaux qui ne parlent pas. Deuxièmement, ces performances sont possibles sans parole verbale, mais pas sans communication. Troisièmement, cette communication très performante et parfois très spécifique se fait par des voies multiples, gestes, postures, mimiques, émissions sonores et de plus olfactives dans le cas du chien. Or, si ça communique, entre chien et homme, grâce à ces échanges. Pourtant, fondamentalement non-verbaux, il est évident que ça communique aussi entre chien et chien. Mais alors pourquoi pas aussi, de la même manière non-verbale, entre homme et homme? Autrement dit, le langage est-il ce que l'on dit et sert-il à ce que l'on croit? Ce sont ces questions que mes collaborateurs et moi-même nous nous posions au début des années 70 dans un laboratoire qui était dénommé Laboratoire d'éthologie et des communications, et Emmanuel y a fait allusion il y a un petit instant. Et ce sont les quelques réponses qui ont été collectées par mes collaborateurs et moi-même au cours de ces 40 dernières années que je me proposais de relater ici, mais je ne sais pas comment je vais faire, hein. De relater ici en les articulant parfois aux travaux d'autres chercheurs, collègues et amis, qui à peu près à la même époque s'attaquaient évidemment au même sujet, particulièrement aux États-Unis. Alors je vais donner un peu leur nom de ces copains, ça ne va rien vous dire sans doute, mais ça ne fait rien. C'est Paul Ekman, certains, non, ça ne vous dit rien. Le linguiste David McNeil, la voici un linguiste, mais lui peut-être que vous le connaissez, parce qu'il a écrit des bouquins avant de devenir vraiment un spécialiste de la communication totale, multimodale, dit-on aujourd'hui. Il a beaucoup étudié le développement du langage et il a écrit même des ouvrages assez classiques. L'anthropologue Adam Kendon, qui a fait plusieurs tours ici, et même je crois à l'école normale l'année dernière ou il y a deux ans. Le sociologue Erwin Goffman, enfin, qui est un géant de ce genre d'études et on peut dire de l'éthologie humaine. Alors, justement, ça c'est un petit problème que j'aurais voulu vous traiter, mais c'est très difficile de traiter tout ça, comme ça, sans avoir un support imagé. L'éthologie, il faut dire deux mots de l'éthologie tout de même. Parce que tout à l'heure, Emmanuel a prononcé un mot que vous n'avez pas bien entendu, parce qu'il a dit vite et à basse voix, mais qui est horrible. C'est le behaviorisme. J'ai prononcé ce terme tout à l'heure. Parce que behaviorisme désigne justement l'étude du comportement. Mais ce n'est pas de l'éthologie. Parce que l'éthologie, c'est aussi l'étude du comportement. Mais il y a là deux études du comportement qui sont très, très différentes. Bien sûr, cependant, qui se rejoignent en certains points, bien entendu, mais tout de même qui sont très différentes. Pourquoi ? Parce que le behaviorisme, qui est né dans les années 1920 à peu près, quand la psychologie s'est voulue scientifique, c'était la psychologie du rat blanc, la psychologie des labyrinthes, la psychologie des boîtes de Skinner. Vous ne savez pas ce que c'est que les boîtes de Skinner, peut-être ? Je vois que non. Eh bien, vous n'avez qu'à aller à Charbonnières, ou non, même à la Cité Internationale. Vous descendez à la Cité Internationale, dans le casino de Partouche, et vous avez des tas de machines de Skinner là-dedans. Alors, ce ne sont pas des rats, ce sont des humains justement, qui tapent sur les pédales pour avoir des récompenses, et ils en ont de temps en temps, ça entretient justement leur comportement très très fortement. Eh bien, alors, le behaviorisme, c'est ça, pour les rats. C'est les casinos pour les rats, ce sont les boîtes de Skinner, et grâce à ça, on a décrit les apprentissages, toutes les théories de l'apprentissage ont été décrites par, pendant des années et des années, par les psychologues expérimentalistes, et donc ce sont des comportementalistes. Mais justement, l'éthologie, c'est quelque chose de très différent. L'éthologie, on fait l'éthologie aussi des casinos, moi ça m'intéresse pas mal, je vais voir un peu ce qui s'y passe, c'est très très passionnant, mais on a une toute autre approche, parce que ce qui est intéressant en éthologie, c'est d'observer, et le premier temps de l'éthologie, c'est un temps d'observation, et ce qui pose des problèmes, contrairement au behaviorisme, ce sont pas ce sont les animaux qui posent des problèmes aux chercheurs et non pas le chercheur qui pose des problèmes aux animaux. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire, on dit, par exemple, je vais faire l'éthologie des fourmis qui logent dans les jardins de l'INS. Bon, quelles hypothèses vous pouvez faire? La première hypothèse, évidemment, c'est qu'il y a des fourmis. Enfin, ce n'est pas une hypothèse très forte parce qu'il y en a partout. Et sûrement, dans ce jardin où il y a des tas de choses, il y a aussi des fourmis. Bon, enfin, il faudra le vérifier. Mais vous pourrez le vérifier, vous verrez. Alors, s'il y a des fourmis, comment sont-elles, justement, vous voyez, déjà ça se pose. Est-ce qu'il y a des fourmis? Et s'il y a des fourmis dans les jardins de l'ENS, ce sont des fourmis heureuses dans un jardin pareil, mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles font? Comment elles habitent? Qu'est-ce qu'elles ont fait comme sentier? Voilà, on n'en sait rien. On suppose qu'elles font des choses, en tout cas, parce que pour survivre, les fourmis, c'est comme pour nous, il faut manger, il faut se reposer, il faut se disputer, il faut bouffer les voisins, il faut, etc., etc. Bon, il y a des tas de choses que les fourmis font qui sont compliquées. Il faut se protéger aussi des prédateurs. Et les fourmis, non. Bref, tout à l'heure, vous irez voir ce que font les fourmis. Et puis, on verra, on en rediscutera un autre jour, une autre année. Donc, ce sont les animaux qui vont poser les problèmes et non pas les chercheurs qui posent les problèmes aux animaux. Alors, dans un deuxième temps, quand on observe les animaux, qu'on voit comment ils se comportent, ça nous pose des questions. Quand je dis nous, c'est-à-dire les chercheurs, les éthologues, et ça nous pose des questions auxquelles on va essayer de répondre. Comme vous avez vu, quand j'ai essayé de décrire ce que les fourmis font dans les jardins de l'ENS, en réalité, je n'en sais rien parce que je ne les ai pas étudiés. Donc, pour répondre, il faut y aller. Et je suis sûr que si j'y vais pendant une petite semaine, eh bien, je pourrais vous dire des choses là-dessus. On pourrait se retrouver, se donner rendez-vous et causer des fourmis des jardins de l'ENS. Et on pourrait faire des films là-dessus et des conférences d'ailleurs, je pense, d'éthologie et d'éthologie humaine. Et alors, donc, voilà, ça c'est tout à fait important. Donc, ce n'est pas du behaviorisme qui est un comportementalisme. L'éthologie, c'est un comportementalisme, mais un comportementalisme d'observation. Et dans un second temps, bien sûr, on peut tout de même expérimenter. Et en particulier, il y a quelque chose qu'on fait très souvent en éthologie, c'est la méthode des leurres. C'est-à-dire, une fois qu'on a observé le comportement d'animal, on essaie de modifier certains paramètres de l'environnement qui a provoqué le comportement. Alors vous avez sûrement lu tout de même quelques livres ou quelques revues là-dessus. On fait des poissons artificiels, on agite des chiffons rouges, on fait des tas de choses, enfin des leurres. Voilà, ça s'appelle des leurres, c'est-à-dire des stimulations, des stimuli, et qui, pour voir s'ils sont efficaces et pour essayer d'analyser ce qui guide le comportement des animaux en faisant ça. Il y a beaucoup de leurres dans notre société humaine. Alors, justement, on peut passer à l'homme, bien sûr. Quand je dis l'homme, évidemment, c'est aussi la femme. Quand on passe à l'espèce humaine, c'est pareil. Faire l'éthologie humaine, ça veut dire qu'on va faire l'observation. Alors, l'observation de l'homme, ça fait beaucoup. Il y a 7 milliards sur la planète actuellement. Mais, donc, on choisit un endroit. Par exemple, j'en ai cité deux, les jardins de l'ENS et le casino de la Cité internationale. Ben voilà, deux endroits où on peut faire de l'éthologie facilement. Je ne dirais pas forcément à bon marché quand c'est au casino, mais ici, à l'ENS, ça ne coûte pas cher. Et il y a tout de même, vous verrez, je trouve que le jardin de l'ENS est plus intéressant que le casino parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux. Et il n'y en a pas les foules, ce n'est pas un zoo, ni un jardin zoologique, mais il y a tout de même beaucoup plus d'animaux. Et il y a même quelques espèces qui sont tout à fait intéressantes et qui sont peut-être même en voie de perdition. Il faut faire attention à ça. Donc, l'éthologie, alors, ben, évidemment, vous voyez bien où je veux en venir, c'est que cette éthologie qui s'est développée surtout à partir de la moitié du siècle dernier, bien que les ancêtres de l'éthologie, c'était les naturalistes, vous savez, les naturalistes, qui décrivait toutes les espèces. On a une grande chance quand on découvre une espèce. Pour ceux qui sont naturalistes, et j'en suis, camarades, eh bien, c'est une grande joie quand on découvre une espèce que personne n'a encore décrite. Et ça devient de plus en plus difficile, bien qu'il y en ait encore quelques milliers à décrire. Mais tout de même, c'est difficile. Les grosses espèces, les gros animaux, ils sont tous déjà bien inventoriés, donc il faut se rabattre sur les petits animaux, les petits insectes, etc. Pour les plantes, c'est pareil. Mais enfin, les plantes, il n'y a pas d'éthologie pour les plantes. Hein. Les botanistes, ils ne font pas d'éthologie, ils étudient les plantes. Nous, on n'étudie que les animaux. Et donc, l'éthologie qui a été inventée, c'est un mot qui a été proposé par Geoffroy de Saint-Hilaire, le créateur du Muséum de Paris, du Muséum d'Histoire Naturelle, c'était pour désigner le comportement, et ça allait avec ce qu'on appelle la systématique zoologique, c'est-à-dire que quand on découvre une espèce, on la décrit au point de vue anatomique, au point de vue physiologique, et lui, il a ajouté au point de vue comportemental, parce que parfois, des espèces très proches vont se distinguer par, justement, un détail du comportement. Donc voilà l'éthologie. Alors, bien sûr, alors j'ajoute que les grands éthologues contemporains, ceux qui vraiment ont rendu officielle l'éthologie dans le public, c'est Lorenz et Tinbergen, dont vous avez dû entendre parler. Ils ont eu le prix Nobel, d'ailleurs, ce qui a rendu quelques Français jaloux à ce moment-là, parce que c'était un Allemand, l'autre un Hollandais, bon. Et les naturalistes français n'ont pas été très contents de cette affaire, et pendant quelque temps, on a même été prudent, on n'osait pas utiliser le terme éthologie. Par exemple, mon premier laboratoire, là je vous raconte une anecdote un peu personnelle, mon premier laboratoire s'est appelé laboratoire de comportement animal, d'études de comportement animal et comparé. Pourquoi ça? Parce que je n'ai pas voulu utiliser éthologie dans le titre du laboratoire, parce que je me suis dit, les crédits que je vais au CNRS, etc., on ne va pas m'en accorder. Après, ça a changé, et maintenant, mon dernier laboratoire s'appelait laboratoire d'éthologie et des communications, parce que malgré tout, l'éthologie, le terme, a vaincu et s'est imposé, malgré la jalousie de quelques collègues. Et donc, l'éthologie humaine, alors c'est tentant, on va faire de l'éthologie humaine, et c'est ce que nous allons essayer, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis longtemps, mais dans mon laboratoire, j'aurais voulu le projeter, parce que tout ce que je vous raconte, ça s'appuie sur... sur toute une équipe qui s'étale sur 40 ans, ça fait du monde, eh bien, il y avait des animalistes qui faisaient des thèses, des doctorants qui faisaient leurs thèses sur les animaux, mais des animaux, alors bien sûr, on a fait des thèses sur les rats, sur les cobayes, ça c'est facile, surtout quand on a quelques moyens et une animalerie, mais quoi qu'on peut aussi faire ça sur les animaux sauvages, sur les rats sauvages, il y en a pas mal à Charbonnière d'ailleurs, des rats sauvages dans la campagne. Mais à Charbonnière c'est assez pratique parce qu'il y en a beaucoup. Les poubelles sont très riches et donc les rats sont nombreux et sont heureux, on peut bien les observer. Bon, enfin passons là sur les rats de Charbonnière. Et donc, on peut étudier aussi, et dans mon laboratoire on le faisait, on a fait tout ça, les rats de charbonnière y compris, mais on peut étudier aussi les gorilles, on a étudié les gorilles, il y en avait dans un zoo avec lequel on avait fait un petit contrat, et puis tous les autres animaux bien sûr qui sont sur dans notre région, et il y en a tout de même pas mal. Alors, il y a un animal, bien sûr, sur lequel auquel on s'est attaqué, si je peux dire, c'est l'espèce humaine, parce que au fond, mon laboratoire avait déménagé, parce qu'il était d'abord rue Rollin, vous savez, rue Pasteur, là, dans l'université, d'ailleurs, rue Pasteur, c'est le siège de l'université, là-bas, il me semble, de Lyon 2, mais à ce moment-là, c'était le siège de Lyon 1, et j'avais mon laboratoire à Lyon 1, et il était rue Rollin, et puis on a déménagé, et j'ai été logé à Ladoix, puis à Bron. Alors si je dis ça, c'est parce que mon laboratoire a changé de nom aussi, parce que j'ai changé d'université après Lyon 1, ça a été Lyon 2, bon, tout ça c'est... Et il paraît, mon laboratoire était au bâtiment I, et on m'a dit hier que le bâtiment I avait été raclé complètement, et qu'on avait fait un superbe building à la place. J'espère qu'on va donner le nom de quelques éthologues auxquels je pense, à ce bâtiment. Qui a abrité à la fois trois laboratoires d'ailleurs, le laboratoire donc d'éthologie des communications, le laboratoire de Puech que vous devez connaître probablement, et le laboratoire aussi d'études des langues africaines qui logeait. On avait trois vrais laboratoires, les trois vrais laboratoires de Lyon 2 en fait, c'était là-bas, c'était dans ce bâtiment I. Bon, alors, tout ça pour dire que nous, on s'est attaqué à l'éthologie humaine, voilà. Alors, l'éthologie humaine, donc, c'était... Il y en avait partout, quoi, c'est-à-dire, des animaux de toutes sortes, etc., surtout les petits mammifères ou les gros, ça coûte assez cher, il faut des animaliers pour entretenir, il faut acheter des trucs. L'espèce humaine, c'est gratuit. On peut en capturer assez facilement, enfin gratuit, pas tout à fait complètement, parce que des animaux humains, les homo sapiens, ô combien sapiens qui étaient à Bron, malgré tout, on les payait souvent. Enfin, non, quand on est. Voilà, il y a deux techniques. Il y a la caméra cachée. Mais en réalité, je préfère dire ma caméra discrète, parce qu'elle n'est pas vraiment cachée, elle est discrète. Et il y a évidemment la caméra non cachée, quand vous filmez comme ça. Alors, quand on filme, évidemment. Comme ça, ça coûte un peu cher parce qu'il faut payer les gens, quoi. On les payait à ce moment-là 50 francs, les séances quand on les observait. Donc la caméra discrète, on l'utilisait bien plus souvent parce que là, on ne payait rien du tout. Et c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était plus spontané, les gens ne savaient pas qu'on les... Alors c'est comme ça que nos terrains ont été extrêmement variés. On a fait des travaux d'abord justement à Bron, en plein air, surtout au printemps, c'est formidable, il fait soleil, il y a des escaliers, vous savez, il y a une place. Là où il y avait le bâtiment I, il y avait tout un petit amphithéâtre avec tous les jeunes gens là qui viennent, qui mangeaient leur sandwich, etc. C'était très très sympathique d'observer ce qui se passait. Et puis partout, on a fait des études sur la rue de la République, l'éthologie de la rue de la République. C'était tout à fait passionnant, d'autant plus passionnant que c'était financé par la ville de Lyon. Et à cette époque-là, c'était bon pour le laboratoire. Et on étudiait le motif de cette étude, ça avait été qu'on allait rénover la rue de la République. Mais vous êtes tous assez jeunes, alors vous ne vous souvenez pas comment elle était avant. Mais en tout cas, c'était avant des travaux. Alors, on voulait faire le point, voir comment elle était, à quoi ça servait cette rue. Qu'est-ce que faisaient les gens sur cette rue, comment ils discutaient, etc. Bref, on a fait aussi des études dans le métro de Paris. Et là aussi, c'était pour une raison simple. Enfin, simple. C'était sur contrat parce que on allait mettre les distributeurs automatiques de billets. Ce qui allait avoir quelques conséquences sur le nombre... Vous savez, autrefois, il y a eu même des chansons là-dessus, il y avait le poinçonneur des billets. Alors, les machines automatiques ont supprimé les poinçonneurs. Donc, ça supprimait des postes, etc. Bon, c'était embêtant, ça faisait des problèmes avec les syndicats. Donc, on nous avait demandé d'aller étudier la situation dans le métro de Paris. Et on avait eu un gros contrat pour faire ça, d'ailleurs. Et on avait étudié donc toutes les relations entre les employés du métro, entre le public, etc., comment ça se passait, etc. Alors je vous cite quelques exemples, mais je ne vais pas tous les citer, parce qu'évidemment en 40 ans, on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses un peu partout. D'autant plus que en caméra discrète, on est toujours en action. Par exemple, en ce moment, je vous filme, vous vous en doutez pas, mais après je vous ferai signer un papier comme quoi je peux utiliser l'enregistrement. Mais je ne vous donnerai pas 50 francs là. Puisque ça n'existe plus. Mais bon, alors donc on a accumulé des tas de. Alors après, ben il faut étudier tout ça, bien sûr. Et alors, une fois qu'on s'est donc lancé, qu'on est passé du gorille et du rat de laboratoire à l'homo sapiens, eh bien mes collaborateurs dans la rue, l'arrêt ou ailleurs, bon, ont été frappés par une chose en enregistrant. C'est que, premièrement, l'espèce humaine est une espèce bavarde. Les gens bavardent beaucoup. Il y en a même qui parlent tout seuls. Et de plus en plus aujourd'hui, avec les smartphones, c'est pas rare. Autrefois, quand il y avait quelqu'un qui parlait seul dans la rue, on s'inquiétait un peu de sa santé mentale. Mais aujourd'hui, pas du tout. Vous voyez tout le monde qui parle. C'est formidable. Il faudrait recommencer certaines études, parce qu'évidemment, ça change un peu la physionomie des choses dans les rues. Donc on s'est précipité pour étudier tous les comportements un peu partout que nous trouvions. Je viens d'en citer quelques-uns. Et on s'est aperçu de la chose suivante, tout de même très, très extraordinaire, qui nous a épatés et qui nous a fait très plaisir. C'est que les gens causent, d'accord, mais quand ils causent, ils bougent. Alors ça a été la première loi que nous avons découverte et... vraiment, ça nous avait enchanté parce qu'on s'est dit, ça mérite probablement un prix scientifique assez élevé, cette découverte-là, que l'espèce humaine Et quand elle parle, elle bouge. On sait, quand on voit un groupe à l'horizon, on sait qui parle, c'est celui qui bouge. Et celui qui bouge, c'est celui qui parle. Alors ça, c'était notre première découverte formidable, sensationnelle, c'est que, parce que ceux qui ne parlent pas, ben, ils bougent un peu, mais ils ne bougent pas, ils n'ont pas de raison de bouger spécialement. Et par contre, je dis, alors, il y a quelque chose de très intéressant aussi, parce que là, on s'est mis, après cette découverte fondamentale, on s'est mis à étudier ça, et alors on s'est aperçu que si on disait ça comme maxime, quand celui qui parle, c'est celui qui bouge, c'est celui qui bouge, c'est celui qui parle, on ne peut pas parler sans bouger, eh bien que c'était vrai, sauf que, si on récite, ou si on lit, on n'a pas besoin de bouger. Ah, ça c'est tout de même intéressant, c'est un additif intéressant, la constatation. C'est-à-dire, si vous êtes en train de générer votre langage, si vous êtes en situation d'énonciation réelle, eh bien, vous devez bouger. Vous ne pouvez pas ne pas bouger. Ou alors, ça vous complique les choses de façon considérable. Par contre, vous pouvez réciter, vous pouvez lire. Et tout à l'heure, j'avais prévu de vous lire une page, ce que j'ai fait. Mais parce qu'après, je prévoyais que je ne lirais plus la page, donc je vais aller me mettre à bouger et vous dire, vous voyez, j'ai pu lire sans bouger, et maintenant que je parle, je bouge. Et tous les soirs, il y a des discussions à la télévision, vous regardez ça, peut-être en ce moment il y en a beaucoup, et c'est assez houleux en général, et conflictuel. Eh bien, vous voyez que tous ces personnages importants, ah, ils bougent, c'est à ceux qui bougent le plus. Et vous verrez ça hier en particulier, il y avait un truc formidable, mais je n'avais pas d'appareil pour l'enregistrer, et comme je n'aurais pas eu d'appareil pour le projeter, je regrette un peu moins, mais ça bougeait formidablement. Il y avait quatre personnages qui étaient là, ça bougeait terrible. Bon, ça m'a fait très plaisir de voir ça, mais vous pourrez le constater, c'est très facile à constater. Et alors justement, vous voyez très bien, si quelqu'un n'est pas en train de vraiment de générer son message, mais en train de réciter simplement un truc qu'il avait appris et qu'il veut vous voler, ben, s'il ne bouge pas, c'est qu'il sait ça par cœur. Alors bon, j'allais dire quelque chose sur les collègues d'Oxford, mais je ne le dirai pas. Non, je vais le dire. Je ne vais pas le répéter. Mais les collègues d'Oxford, les professeurs, quand ils ont des chaires, vous savez, c'était assez traditionnel dans ces universités anglaises anciennes. Alors, ils m'ont toujours épaté parce qu'ils font leurs cours sans bouger, ou en bougeant un minimum, quoi. Non, ils bougent un peu de plus en plus, mais en tout cas, il fut une époque, ce qui était la mienne quand j'étais jeune, eh bien, où ça bougeait très très peu par rapport aux collègues français ou d'ailleurs, qui eux ne manquent pas de bouger, sauf justement quand ils récitent leurs leçons. Bon. Alors ça c'est très intéressant, c'est un phénomène très intéressant parce que justement ça introduit l'activité corporelle là-dedans. C'est-à-dire parce que puisque si on parle il faut bouger, alors la question qui se pose, premièrement c'est comment on bouge, deuxièmement pourquoi on bouge. Alors comment on bouge ? Eh bien, ça, tout de suite, évidemment, sur les enregistrements, puisqu'on enregistre à la fois la parole et les gestes, eh bien, on fait des concordances. Alors, on a fait des tableaux de gestes. Moi, j'en ai fait. Mes collègues, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, en ont fait aussi. Alors, c'est assez satisfaisant parce que ces tableaux sont convergents, les classifications des gestes paroliers. C'est à peu près la même chose pour tous. Alors évidemment là il manque des images parce que ça serait beaucoup plus facile de décrire tout ça, mais c'est intéressant. Alors pourquoi vous me direz, pourquoi c'est intéressant de dire bon ça bouge, d'accord, eh bien c'est intéressant de voir comment le geste justement qui fait le lead de la parole et concorde exactement à la sémantique, c'est-à-dire il y a plusieurs catégories de gestes pour les différents types de paroles. Alors ça intéresse les linguistes, justement. Je ne peux pas vous montrer le tableau des gestes, et ça serait trop difficile de le décrire comme ça, de façon abstraite. Ou bien il faudrait que je mime à chaque fois, mais je ne suis pas capable. Et donc, ça c'est un premier élément qui est important, qui montre que le corps intervient formidablement dans la genèse, pas seulement comme les neurophysiologistes disent, vous connaissez ça maintenant, tout le monde connaît le cerveau par cœur, mais il n'y a pas que les organes phonatoires qui vont bouger, qui vont former les phonèmes, etc., mais c'est tout le corps entier, c'est-à-dire que la mise en mots passe par la mise en corps, et ça c'est tout de même quelque chose d'important. Et je répète, bien sûr, que si vous récitez quelque chose, eh bien, à ce moment-là, non. Parce que, justement, vous n'êtes pas en état d'énonciation réelle. Vous êtes en état de récitation. L'énonciation, elle s'est faite ailleurs, et vous, vous récitez seulement. Donc, votre corps n'a plus besoin d'intervenir. Voilà déjà un premier élément d'importance du corps dans ce phénomène. Du geste synchrone de la parole, et vice-versa. Alors, une fois qu'on a observé ça, eh bien, on a fait plusieurs de nos autres expériences pour préciser tout ça. Alors, ces expériences, ça a été que ça varie selon les personnes. C'est-à-dire qu'il y en a, selon le caractère, le tempérament, disons, il y en a qui bougent beaucoup, il y en a qui bougent beaucoup moins. Ça varie selon les cultures. Vous savez que si vous attachez les mains d'un Italien du Sud, d'un Sicilien, il ne peut plus parler. C'est un proverbe classique. Mais c'est vrai qu'il y a des populations, en particulier méditerranéennes, latines, qui bougent beaucoup en parlant. Il y en a d'autres, des Nordiques, qui bougent beaucoup moins. Donc, alors, il y a des questions de caractère, de tempérament. Alors là, j'ai des superbes courbes à vous montrer, mais je ne peux pas. Il y a des problèmes culturels, évidemment, donc des différences culturelles, surtout qu'il y a certains gestes, évidemment, ça, vous savez bien, ce qu'on appelle nous les emblèmes ou quasi-linguistiques, qui sont des équivalents de paroles d'ailleurs. Par exemple, ce geste-là, par exemple, ce geste-là, etc. On en a fait la collection. En français, il y en a facilement une trentaine. D'ailleurs, quand vous interrogez des gens, ils peuvent vous en sortir une trentaine facilement, des quasi-linguistiques comme ça. Mais bien sûr que ça, c'est très culturel. C'est-à-dire que, et là, il faut se méfier justement quand on est à l'étranger, parce que des fois, un même geste peut avoir des connotations complètement différentes. Bref, les gestes qui s'introduisent en rapport avec le langage et le corps qui vient là-dessus, puisque le corps, la mise en mots se fait par la mise en corps. Alors, on a étudié ça, mais là non plus, je ne peux pas vous montrer le dispositif. On a étudié ça à cette époque-là, c'est-à-dire maintenant, il y a 20 à 30 ans, avec un dispositif dans mon laboratoire où il y avait deux pièces. Une pièce où on avait un entretien avec des gens, et c'était souvent d'ailleurs des consultations, parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, j'avais eu une formation médicale et donc des relations parmi des amis qui soignaient des gens et qui envoyaient des gens dans mon laboratoire pour ce qu'on appelait des examens psychophysiologiques, où on faisait un entretien psychologique, mais en même temps on enregistrait des paramètres physiologiques, c'est-à-dire qu'on les transformait un peu en astronautes, les gens qui venaient nous voir. On leur mettait des électrodes sur la main pour capter les variations de potentiel cutané, c'est-à-dire le réflexe psychogalvanique. On avait mis des électrodes sur leur chaise, parce que comme ça, quand ils bougeaient, ça s'enregistrait. Alors tout ça, il y avait des fils, bien sûr, ils ressemblaient à faire des astronautes, vous savez, avec des tas de... Mais c'était très bien, parce que ça faisait très sérieux. Les gens pensaient que là, au moins, ils étaient examinés, enfin, convenablement. Et donc, tous ces fils passaient à travers le mur, il y avait une cloison, il y avait un trou, alors tous les fils passaient à côté. Et de l'autre côté, il y avait des enregistreurs. Il y avait déjà tout de même des enregistreurs intéressants et importants, mais c'était sur papier. Donc on avait, pendant nos enregistrements, des kilomètres de papier avec des inscripteurs qui faisaient qu'on avait une ligne pour la parole, parce qu'on mettait aussi un laryngophone. On avait les mouvements globaux avec les électrodes de la chaise. On avait les réactions électrodermales. On avait parfois le rythme cardiaque, mais ce n'était pas d'un intérêt considérable. Donc on avait toute une polygraphie. Alors après, c'était formidable, on pouvait faire des traitements statistiques là-dessus, et ça nous a permis de faire un certain nombre de constatations sur justement dans l'interaction, parce que, alors, souvent, enfin, quelquefois, disons, pas systématiquement, mais on mettait aussi la même chose sur celui qui causait avec l'autre, c'est-à-dire que les deux personnes étaient enregistrées. Alors là, ça faisait, il fallait deux enregistreurs de l'autre côté, ça faisait vraiment des kilomètres de papier, et on voyait donc la synchronisation des activités, disons, psychophysiologiques de chacun des deux individus. Et on pouvait voir donc les synchronies, qu'est-ce qui se passait. Et alors on voyait par exemple ce qu'on en décrit des micro-affects, c'est-à-dire que quand il y en a un qui faisait une petite bosse là, avec l'électrodermale, eh bien l'autre, hop, souvent faisait la même chose, mais il ne s'en apercevait pas, les gens. C'est-à-dire quand nous communiquons avec autrui, il y a des tas de phénomènes qui se passent, qui deviennent synchrones. Si évidemment là vous êtes nombreux, donc chaque fois que moi j'ai un petit truc une petite réaction, un micro-affect, ben, dans la salle vous n'avez pas tous des micro-affects, ça serait trop beau. Il faudrait faire l'expérience d'ailleurs, peut-être que ça pourrait se faire, ça serait intéressant. Mais je ne crois pas que ça serait très positif a priori. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui seraient syntones avec moi, mais ça serait étonnant que tous le soient. Bref, peu importe. Ce qu'on a décrit comme ça, c'est ce que nous avons appelé l'organisation verbo-viscéro-motrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, organisation verbo-viscéro-motrice? C'est-à-dire qu'une personne en interaction s'organise sur le plan verbal, sur le plan moteur, des mouvements, et sur le plan viscéral, végétatif, c'est-à-dire émotionnel. Donc il y a ces trois plans, verbal, émotionnel. Et alors, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que, premièrement, on s'aperçoit qu'il y a une certaine typologie, tout le monde ne réagit pas de la même façon, bien que quand on est en relation avec quelqu'un, en interaction, on a des choses communes qui sont en échoïsation, je vais en revenir là-dessus, mais c'est très intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a une vraie typologie. C'est-à-dire qu'il y a des tempéraments. Il y a des gens qui se régulent beaucoup avec les gestes, il y en a d'autres qui se régulent avec la parole, et puis il y en a d'autres qui se régulent avec rien du tout. C'est-à-dire qui ont leurs affects en permanence qui n'arrivent pas à contenir. Mais la façon de contenir ces affects, c'est de causer. Vous savez, il y a des gens qui se mettent à causer, ben, c'est ce qui cause beaucoup d'ailleurs, mis à part les enseignants, bien sûr, aussi sur leur métier. Mais ce qui cause beaucoup, généralement, c'est parce que les gens bavards, autrement dit, c'est parce qu'ils ont besoin de ça pour régler leur... Si jamais vous les empêchez de parler, ils font des ulcères d'estomac, quoi. Et donc, etc., etc. Donc, chacun a son système. Mais il faut voir que c'est intéressant, d'ailleurs, au point de vue thérapeutique, parce qu'on peut essayer, justement, de compenser quand les gens sont trop bavards. Bon, on peut essayer de les dériver sur d'autres activités, motrices, par exemple, ou autres. Bref, tout ça, c'est connu. C'est, en tout cas, on peut l'imaginer très facilement. Alors, donc, on a découvert un peu cette... oui, on peut dire que nous avons découvert, on n'est pas les seuls à l'avoir découvert, parce que les psychiatres, les psychanalystes en particulier, avaient déjà découvert une certaine relation, et puis même dans les typologies du siècle dernier, qui se sont faites dans la première partie du siècle dernier, il y avait pas mal de typologies, vous savez, il y avait, Sheldon, etc., avait fait des groupes, on classait les gens selon la taille de toutes sortes de choses. Bon. Bref, je n'insiste pas là-dessus. Mais nous, on avait montré ce reflet physiologique, et bien sûr avec la parole et l'effet réducteur de la parole dans ce système. Bon, alors, on faisait ça au laboratoire, mais aujourd'hui, bien sûr que tout ceci est devenu beaucoup plus commode, parce que au lieu de transformer les gens en astronautes, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on a de la télébiométrie, c'est-à-dire on place des électrodes, et puis ça s'enregistre... beaucoup plus facilement. Enfin, on peut refaire tout ça d'une façon beaucoup plus commode. Mais pour des linguistes, c'est intéressant de faire, je crois, ça serait intéressant de reprendre ce genre d'expérience, parce que c'est tout de même tout à fait intéressant de voir tout le reflet affectif, etc. Bref, passons là-dessus. Alors, à partir de là, on s'est posé la question suivante, mais que je viens juste un peu d'aborder en disant qu'il y avait une synchronisation, il y avait une échoïsation entre les parleurs qui se fait, même une échoïsation pas seulement affective mais motrice aussi. C'est-à-dire que très souvent, quand vous observez les gens, les Anglais disent le mirroring, il y a, mais là, ça ne se voit pas, moi je bouge par exemple, et vous n'allez pas tous vous mettre à bouger, sauf si vous voulez me troubler. Mais ça, je l'avais déjà indiqué d'ailleurs à des étudiants, si vous voulez troubler le prof, mettez-vous tous à imiter ses gestes à un moment donné, vous verrez, ça va faire l'effet. Ou en sens contraire, devenez rester complètement immobile pendant 5 minutes en le fixant sans bouger absolument. Et là aussi, ça, c'est sûr que ça a des effets rapides. Et alors, moi, je disais ça, de faire ça avec des collègues, évidemment, à qui je voulais faire des blagues. Et ça marchait bien. Mais ils ne savaient pas que c'était moi qui avais, quand ils le soupçonnaient. Mais donc, il y a des échos, des échoïsations qui se font. Alors là, on a fait beaucoup d'enregistrements et d'expériences, je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne marche pas. Mais quand les gens sont en situation conversationnelle, il y a très souvent des échos de gestes. D'ailleurs, c'est sûr, quand il y en a un qui sourit, l'autre sourit, quand il y en a un qui... etc., etc. Il y a des synchronisations qui se font et qui sont très faciles à observer, que vous avez d'ailleurs bien observé. Et d'ailleurs, comme je viens de le faire remarquer en parlant des blagues que je faisais à des collègues, si ça ne marche pas, c'est-à-dire si le partenaire avec qui vous êtes en interaction reste immobile comme ça, vous dites, bon, il doit penser à autre chose, il ne m'écoute pas du tout. Généralement, c'est vrai, donc il faut qu'il y ait une syntonie. Mais ceux qui ont l'habitude de communiquer, ils pensent à autre chose, mais ils savent qu'il faut bouger justement pour paraître en état d'écoute. Oh ben oui, vous avez remarqué ça, c'est sûr. Et donc, on est allé là un peu plus loin, on s'est dit, oui, parce qu'au fond, le parleur, il se pose 4 questions. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on me comprend? Et qu'est-ce qu'on en pense? Voilà les 4 questions. Quand vous êtes en conversation ou quand vous parlez à quelqu'un, il y a ces 4 questions auxquelles il faut répondre. Alors la première, elle est purement instrumentale. Est-ce qu'on m'entend? Bon, ben, ça c'est vite, on répond vite. Est-ce qu'on m'écoute? C'est un peu plus compliqué. Puisque dès l'école primaire, les enfants savent comment il faut faire semblant quand vous écoutez le maître si on ne veut pas avoir d'ennui. Le troisième, c'est est-ce qu'on me comprend? Alors ça, voilà, c'est là que ça commence à devenir épineux. Et qu'est-ce qu'on en pense? Ça l'est encore plus. Alors quels sont les systèmes? Parce que justement, puisqu'on se pose ces questions, il faut pouvoir y répondre. Et l'espèce humaine a mis au point des systèmes pour ça. Et le système, eh bien, c'est le système d'échoïsation et ce que nous avons appelé, nous, l'analyseur corporel. C'est-à-dire qu'on se sert de son corps, puisque j'ai dit que c'était un phénomène corporel, on se sert de son corps pour faire écho à celui de l'autre, et c'est là que va intervenir l'empathie. On a une relation d'empathie corporelle avec l'autre qui fait qu'on a un échange, alors ça marche plus ou moins bien, où... On ressent ce que ressent l'autre. Bien sûr que vous allez me dire, bon, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, mais peu importe. On pense que c'est vrai en tout cas. C'est-à-dire quand on est en interaction avec quelqu'un, eh bien, il y a ce diagnostic qui se fait tout de suite. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, et pour répondre à ça, vous analysez ce que vous, si vous étiez à sa place, vous ressentiriez. À ce moment-là. Bon, je schématise bien pour me faire comprendre. Bien sûr, c'est un peu compliqué. Ce sont des phénomènes un peu compliqués et que nous avons enregistrés, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut l'enregistrer au point de vue psychophysiologique. Donc, il y a des échoïsations qui sont extrêmement importantes. Alors, ça complique un peu les choses, justement, aujourd'hui, et il y a des pistes de recherche qui s'ouvrent parce que avec les moyens de communication qu'on a, on ne voit plus les gens. Donc, le système, quand vous avez votre tableau, enfin, vous pouvez les voir, bien sûr, si vous avez Skype ou d'autres choses, mais en général, vous ne voyez pas, et au téléphone, par exemple, vous êtes obligé uniquement d'utiliser les éléments sonores, la voix, mais quand ce sont des tablettes ou des SMS ou des textos, des trucs comme ça, toutes ces communications médiatisées comme ça, n'ont pas de... l'empathie devient difficile. Mais ce sont des études à faire et je ne m'avancerai pas plus dans ce domaine parce qu'il faut étudier ça. Justement, ce sont des champs de recherche qui s'ouvrent maintenant, c'est-à-dire le contexte, disons, affectif et, ou empathique, plus exactement. C'est parce que nous, on applique ce que j'appelle le postulat empathique, c'est-à-dire on suppose, quand on est en interaction avec quelqu'un, qu'on sait ce qu'il pense, comment il ressent les choses. C'est une hypothèse, mais on ne le ressent pas comme une hypothèse, on le ressent comme une certitude, en général. Ou bien alors, si on n'arrive pas à le déterminer, s'inquiète. On est inquiet, on se dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc, il n'écoute pas, etc. Bon, alors, voilà, donc, un certain nombre... Attendez, je regarde un peu où j'en suis, parce que quelle heure il est d'abord ? Je vois qu'il est 7 heures, hein. Il y en a qui commencent à avoir soif, et je remarque à leur mimique.
On a commencé un peu tard, là.
Oui, oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire un autre... Oui, d'accord. Donc, je peux encore vous donner quelques autres informations. Donc, là, je parle du rôle du corps, justement, dans l'interaction, comme vous voyez, depuis 5 minutes. Et un autre exemple, c'est la DX6. La DX6, alors ça, c'est les linguistes qui sont très contents là-dessus, parce que ça, c'est des trucs qu'ils étudient à fond. Eh bien, c'est un truc très intéressant en ce qui concerne la gestualité. Pourquoi ? Parce que il y a la DX6 du territoire, et il y a la DX6, moi, ce que j'appelle, il y a la DX6... de la carte et la directrice du territoire. Alors vous remarquez ce vocabulaire, il vient de l'école de Palo Alto directement, de la carte et le territoire, opposition de la carte et le territoire. On peut dire aussi la DX6 narrative versus la DX6 indexicale. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui, je vous en prie.
Vous pouvez l'épeler,
DX6 DEIXIS. Oui, il y a une autre question ? Non, bon. Bon, oui, mais ça m'étonne que... Bon, enfin, vous en avez déjà entendu parler.
Les gens ne sont pas forcément linguistes ici, Jacques. C'est le principe des proof apéro.
Ah, d'accord.
C'est que les gens qui viennent ne sont pas au départ des spécialistes. Il y a les spécialistes.
Ah, d'accord. Non, d'accord, d'accord.
C'est spécialistes. Merci. Les spécialistes, c'est tout le monde, c'est ouvert à tous. C'est le principe des proof apéro.
Merci de m'avoir... merci beaucoup de m'avoir éclairé. Bon, alors, parce que dans ce cas, il faudrait commenter un tout petit peu. C'est vite dit. C'est la désignation. Hein, c'est l'activité de désignation de l'objet. Et alors, là, quand on étudie les gestes, on s'aperçoit de la chose suivante, c'est qu'il y en a deux sortes. Ce que je viens de dénoncer, d'ailleurs, la DX6 du territoire et celle, de la carte. Alors, je reprends, et vous allez comprendre tout de suite. Si vous dites, sur cette table, il y a un sac. Bon. Eh bien, automatiquement, celui qui prononce cette parole, en l'occurrence c'est moi, il va faire ce geste. Il va faire cette DX6 qui montre l'objet. Si vous énoncez un terme, un nom ou un objet qui est dans cette salle, eh bien, vous allez le montrer. C'est-à-dire, si je dis, oui, aujourd'hui, les appareils n'ont pas marché. Bon, ben, voilà, je viens de faire ce geste-là. Bon, donc, si vous énoncez, si vous avez un référent qui est présent ou représenté, par exemple, si je dis, aujourd'hui, je pense que dans cette salle, personne ne porte de cravate. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne vous a pas étonné, j'ai immédiatement touché, en fait, mon col. Et ça, c'est obligatoire, je veux dire, obligatoire. C'est-à-dire que si l'objet dont vous parlez, le représentant dont vous parlez, est dans la salle, ou est peut-être symbolisé par un autre, eh bien, automatiquement, il va y avoir cette DX6, ce geste de désignation. Mais, alors, il y a d'autres choses, c'est que, alors là, il y avait des photos, des films que je voulais vous montrer. Quand quelqu'un raconte une histoire, par exemple, là, il y avait un petit groupe qui était filmé, Et il y avait un... Après, ils étaient interviewés à la télévision. Enfin, il y avait une discussion. Et il y en a un qui disait... Oui, ces gamins-là, ils faisaient un chahut terrible dans l'escalier. Bon, et ils faisaient ce geste-là. Or, premièrement, il n'y avait pas d'escalier. Deuxièmement, il n'y avait pas de gamins présents. Mais ils faisaient tout de même ce geste. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de représentant concret dans le système, eh bien, celui qui en parle va le situer dans l'espace tout de même. Dans un espace, il va le désigner de façon virtuelle. Et si l'objet est repris dans le discours, il se peut dans la conversation que ça revienne, eh bien, hop, on va reprendre l'endroit où on l'avait mis au début. C'est-à-dire donc, il y a ces gestes de désignation qui peuvent être les gestes, alors je le répète, du territoire ou de la carte. Le territoire, ça veut dire que on montre vraiment un point précis où, en effet, l'objet est là ou représenté, ou la carte, c'est-à-dire, alors, c'est quelque chose de théorique dont on construit et on va le placer dans un espace théorique. J'espère que je suis clair. Bon, donc, alors ça, c'est intéressant parce qu'on en a tiré la loi suivante. C'est la loi de désignation de l'objet présent ou de son représentant symbolique. OK. Bon, alors comme je crois qu'on arrive tout de même à l'heure où vous commencez à avoir soif. Bon, alors, je vais en terminer, n'ayez pas. Donc, la conversation, évidemment, est une activité interactionnelle et donc elle est soumise à régulation. Puisque c'est quand il y a interaction, forcément qu'il faut que ça se régule. Et alors ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a les quatre questions du parleur, enfin je vous ai parlé d'un peu de tout ça, il y a l'échoïsation et l'analyseur corporel, les fondements de l'empathie, je vous en ai parlé aussi. Alors, ce qui nous amène à décrire une seconde voie, c'est-à-dire que donc le parleur, il bouge parce que ça fait partie de son message, de ce que nous appelons l'énoncé total. Énoncé total, c'est-à-dire l'énoncé verbal qu'on peut transcrire, mais il y a aussi tout le reste. Il y a la vocalité, il y a la voix, il y a les gestes, il y a les mimiques, il y a tout un tas de choses qui fait que le véritable énoncé, ce que vous recevez quand vous êtes en face à face avec quelqu'un, c'est pas seulement ce qu'il dit, mais c'est toute la façon dont il le dit, et il y a tous ces éléments non-verbaux dont je parle d'ailleurs depuis maintenant presque une heure. Donc, c'est évident que ça, c'est important là-dedans. C'est aussi, comme on l'a vu, avec cette projection empathique qui fait qu'on sait, on fait des hypothèses sur ce qui se passe chez l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il en pense, comment ça se passe. Eh bien, celui qui parle bouge bien sûr beaucoup plus que ceux qui écoutent. Mais celui qui parle, ça va servir à celui qui écoute ce qui se passe à son intérieur, c'est-à-dire l'état, ce qu'il ressent, puisque si vous avez subi mon système d'échoïsation et de projection empathique, en m'écoutant, vous faites des hypothèses, mais ce n'est pas rationnel, c'est instinctif, c'est spontané, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, vous apercevez que je commence à avoir soif moi aussi, que je commence à ne plus avoir de salive, enfin, vous faites des tas d'hypothèses qui sont fausses. Non, non, vous dérangez pas, non, te dérange pas, ça va être fini de toute façon. Simplement, c'est pour prendre un exemple. Donc, il y a une troisième voie, c'est qu'à l'activité énonciative correspond une activité dénonciative. À l'énonciation correspond la dénonciation, et la dénonciation va justement passer par ces phénomènes corporels d'échoïsation multiple, que ce soit corporel, que ce soit gestuel, etc., etc. Donc, c'est une utilisation échoïsante du corps qu'on peut aussi appeler empathie inférentielle. Bon, alors, je crois que j'aurais pu vous... Alors, bien sûr, il y a quelque chose, je vais terminer. Non, il y a évidemment, mais je ne vous en ai pas dû vous parler, c'est qu'on a fait des expériences très intéressantes, mais là, il aurait fallu des images. pour montrer justement comment le corps était utilisé aussi pour l'interprétation et pour la transmission. Mais tant pis, je ne peux pas vous le... D'abord, il est trop tard maintenant, puis d'autre part, c'est un peu difficile. Il y avait une série d'expériences, bon, il n'y a pas tellement, mais il y en a deux à vrai dire, mais qui sont très intéressantes. Mais bon, je vous en dis au moins de l'une. On donne une série de photos, hein, une planche, où il y a quelqu'un, une personne, qui est photographiée 9 fois, 1, 2, 3, comme un roman photo, là, comme ça. Mais c'est une personne qui est photographiée de face, et elle est photographiée en train de parler, de raconter quelque chose. Mais on ne sait pas ce qu'elle dit, ce n'est pas écrit, et ce sont des images fixes, des clichés. Et on donne au sujet, on dit, voilà, cette personne, hein, vous allez de début, et ça se suit, eh bien, vous allez la faire parler, raconter une histoire comme si vous étiez à sa place. Voilà. Et alors, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéressait, c'est qu'on voit la personne, à ce moment-là, qui invente une histoire, effectivement, mais qui refait les gestes exactement de, qui sont sur la photo. C'est-à-dire, pour inventer ce que la personne dit, elle refait les mêmes gestes, les mimiques que la personne qu'elle interprète. Bon, ça c'est une des voilà. Bon, j'aurais pu vous citer d'autres choses encore bien plus intéressantes si j'en avais une possibilité. Mais je vais m'arrêter là-dessous. Non, tout de même un petit mot. Alors, tout ceci, je ne sais pas si j'ai été bien clair, et bien sûr sans images ça a été difficile. Mais il y a aussi aujourd'hui des données neurophysiologiques. Comme vous le savez, ah, voilà, les neurones miroirs, c'est que, tout le monde en a entendu parler, bien sûr, de Risolati, Fadiga, Galese, Fogassi, et bon, c'est-à-dire que ce qui se passe effectivement, quand on est en face de quelqu'un, et quand on voit quelqu'un en action, c'est que les mêmes zones du cerveau de celui qui voit, eh bien, on a les mêmes activités, les mêmes, enfin à peu près, que celui qui fait, par exemple, alors, Zolati et ses collègues, lui, c'était au moment de la pause café. Il y avait un macaque dans le coin qui était là, mais qui était branché. Hein, là, il avait des électrodes et il ressemblait un peu au personnage que nous branchions tout à l'heure, là, je vous ai expliqué. Enfin, il avait des électrodes un peu partout. Et Zolati, c'était la pause, alors avec ses copains, hop, il boit un café. Vous savez, les cafés italiens, ils sont chouettes. Alors, il buvait le café, c'est la pause café. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils entendent le bruit, parce qu'il y avait un petit bruit quand les enregistreurs se mettaient en route. Et ils se sont aperçus que le singe, en les voyant boire du café, se mettait dans sa zone de perception, justement, motrice, se mettait en action parce que... il faisait comme s'il buvait lui aussi du café, enfin comme s'il bougeait pour moi. Vous connaissez, c'est la base de ces fameux neurones miroirs dont tout le monde a entendu parler aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un exemple d'échoïsation, donc au point de vue du système nerveux central. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un reflet neurophysiologique. Et eh ben, c'est très bien, ça, c'est réjouissant de voir que tout ça, ça converge tout à fait. Bon, alors, voilà la conclusion. Eh bien, pour conclure ce survol de travaux à la fois variés et complémentaires, eh bien, j'espère que vous me pardonnerez des lacunes et des imperfections de cette présentation, dont je ne suis pas complètement responsable. Et d'autre part, évidemment, comme ça s'étale sur une cinquantaine d'années, il faut bien dire, j'ai tout de même fait un survol bien rapide de très haute altitude sur tout ce qu'on peut faire dans un laboratoire où il y a des jeunes gens comme vous, des doctorants divers qui préparent des thèses et qui en veulent beaucoup. Alors il y avait aussi la liste de ces thèses que j'aurais voulu projeter un peu, il serait intéressant, il y en a des pages, parce que tout de même tout ce que je vous ai raconté, eh bien, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est eux et moi ensemble, et eux ensemble aussi, dans un laboratoire, c'est un travail de groupe en fait qui se fait, et bien sûr que j'aurais pu citer à chaque fois des noms divers, Mais vous retrouverez tout ceci, comme Emmanuel a gentiment rappelé tout à l'heure, en tapant Jacques Cosnier, qui est mon nom, sur Google, et vous trouverez à la fin de mes pages, là vous trouverez la liste des thèses, et vous verrez, il y en a beaucoup qui sont très intéressantes, dont le titre est très, très attractif, elles sont toutes très intéressantes, mais certaines ont des titres qui vous parleront, et ça vaut le coup de les lire pour ceux qui font des thèses aussi. Il y a de nombreux doctorants dans la salle, je vois ça à votre typologie. Bon, alors je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté malgré les difficultés. Ciao.